des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, cette amitié éternelle qui lie la Russie et la Chine est à l'image de l'amitié éternelle que j'ai avec toi.
Alors que le monde s'en tienne pour prévenu. Les autres, vous êtes foutus. C'est toute une visite, hein, la visite du président chinois Xi Jinping qui fait une visite à l'extérieur, évidemment, de son pays, ce qui est assez rare, et il s'en va en Russie. C'est encore plus rare, et il va pour 3 jours. Alors, on veut vraiment marquer, ne serait-ce que parce que le langage international de la diplomatie, c'est les symboles, une visite de 3 jours d'un leader aussi puissant, c'est très, très, très significatif. Et lorsqu'on regarde les publications des uns et des autres, parce que les deux chefs d'État ont fait des lettres ouvertes dans les journaux, on passe essentiellement de l'amitié sans limite, qui était la base de la relation entre les deux avant la guerre en Ukraine, à là une amitié éternelle. Alors sortez vos dictionnaires de superlatifs, véritablement, il n'y a pas beaucoup de lumière entre la Russie et la Chine. Ce sont des alliés très forts, mais des alliés, je vous dirais que, et Yasmine, il y a quelque part, on dit des fois que les meilleurs partenariats sont quand deux égoïsmes se rencontrent. On est véritablement dans ce cadre-là. Lorsqu'il est question de la Russie et de la Chine, par exemple, les Russes, eux, voient la Chine comme étant un marché magnifique qui est très, 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 qui est assoiffé, qui est affamé de ressources, de matières premières. Et ça donne bien parce que la Russie, c'est ça qu'ils produisent, eux, du minerai, du gaz naturel, du pétrole. Et bon, ben, il n'y a pas tellement de monde sur le marché pour leur en acheter. Et ils ont une frontière, bien qu'elle est à l'autre bout de l'Orient, ils ont une frontière commune. Alors ça, c'est génial. Au plan militaire, mais là, on prie à genoux que la Chine pourrait être un fournisseur intéressant pour du matériel militaire, ou à tout le moins du matériel qu'on appellerait non létal, c'est-à-dire tout ce qui peut servir à une armée, mais qui ne sont pas essentiellement des choses qui peuvent tuer l'autre camp, mais qui sont essentielles, que ce soit de l'approvisionnement, du matériel technique et autres. La Russie a besoin de la Chine. Pour la Chine, les intérêts égoïstes chinois face à la Russie, bien évidemment économiques, aller chercher du matériel, militaire, parce que très bientôt, le conflit avec Taïwan pourrait être encore plus important et on veut être sûr qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir éviter un conflit qui aurait trop de fronts en même temps. Mais surtout, surtout, Yasmine, un partenaire géostratégique. C'est-à-dire que si demain matin, la Russie devait s'effondrer, si le régime Poutine devait s'effondrer et que la Russie devienne une démocratie florissante, oubliez ça, en 1000 ans d'histoire, c'est jamais arrivé. Mais si jamais Poutine tombait, ben c'est un adversaire de moins dans une lutte infiniment plus grande que celle entre la Russie et l'Ukraine. Dans quel genre de monde on va vivre? Est-ce que c'est un monde dominé par une certaine vue américaine ou occidentale, la règle de droit, la démocratie, le droit international, ou ce sera un monde où les pays ne font affaire que sur la base de leurs intérêts très égoïstes et que les régimes autoritaires peuvent traiter avec tous les autres sans impunité? Dans ça, la Russie et la Chine sont dans le même camp. Et c'est ça qui rend la visite très intéressante. Et tout le monde se demande, est-ce qu'au sortir de cette réunion-là entre la Chine et la Russie, il y aura une entente, une volonté de la Chine de dire « nous allons être l'équivalent des États-Unis et de l'OTAN à la Russie, ce que les États-Unis et l'OTAN sont à l'Ukraine ».
Oui.
Ça, ce serait problématique. Et c'est là où la Chine, véritablement, marche sur une ligne incroyablement fine, là. C'est-à-dire, on veut absolument, on a tout à gagner que la Russie ne s'effondre pas, que la Russie reste un compétiteur, un adversaire, un problème pour l'Occident, que la thèse des leaders autoritaires qui font ce qu'ils veulent chez eux sans problème financier, sans conséquences, ça tienne. Mais en même temps, qui ici pourrait se permettre de se passer de 400 millions de consommateurs européens et 400 millions de consommateurs nord-américains?
Pas grand monde.
Personne n'est assez riche pour ça, là. Alors là-dessus, la Chine est véritablement, comment je peux avoir, on dirait en anglais, comment je peux avoir mon gâteau et le manger en même temps? Comment je peux avoir le marché occidental, mais en même temps m'assurer que la Russie, mon partenaire, ne tombe pas? Et là, le but chinois ici, c'est d'avoir les deux. Et c'est pour ça, bizarrement, que le plan de paix, la proposition de paix chinoise, que j'appelle, moi, le plan de paix pour la Chine, pas pour l'Ukraine ni la Russie, c'est de dire, ben, il devrait y avoir un cessez-le-feu. En filigrane, lisez, donner du temps à Vladimir Poutine pour s'en préparer encore plus. Et en même temps, la levée des sanctions contre la Russie. Ça, c'est pas un accord de paix, c'est un accord pro-Poutine.
C'est ça. C'est
alors, on voit, dans tout ça, on pourrait appeler ce sommet-là, Yasmine, le sommet de la coalition de l'autre monde. Un monde qui se voit véritablement en compétition avec l'Occident et le genre de monde que ça organise.
Mais est-ce qu'on est rendu au point de dire qu'il y a un rebrassage de cartes, un repositionnement des forces diplomatiques en place et que la Chine aujourd'hui, elle montre de quoi elle est capable. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Puis là, maintenant, elle est vraiment dans une offensive de repositionnement stratégique.
Je pense que tu le dis bien. Parce qu'il y a deux... À la fin, là, c'est un coup de l'eau d'érable. Là, si on fait bouillir là, ce qui reste à la fin, c'est au moins deux choses absolument fondamentales qui nous permettent de comprendre pas mal ce qui se passe là, autour de nous. La première chose, c'est la mort... l'expectative des années 90. Et on se souvient, là, c'était la fin de l'Union soviétique, l'effondrement du mur de Berlin. Cette idée que le monde serait essentiellement juste une grande place d'affaires gouvernée par des règles internationales, par l'OMC, par exemple. Et si des pays ont des conflits, ce sera des conflits du style « charge trop cher de taxes sur mes produits, un tribunal va trancher, puis on va régler ça ». Versus le monde des blocs, hein, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, ce qu'on avait vécu. Ben, ce monde-là, ou le cadre imaginé des années 90, il est, je pense, pas juste en état de mort, il est maintenant bien enterré. On revient de plus en plus à ce monde de blocs. Ça, c'est notre premier pilier. L'autre pilier, c'est la place de la Chine dans le monde. Et là, là-dessus, nous, peuple de jeune histoire, puis on pourrait même mettre l'Europe de l'Ouest là-dedans comparé à la Chine. La Chine, c'est une civilisation plusieurs fois millénaire. Et dans la vaste histoire du monde, à part les 200 dernières années, la Chine était une superpuissance. Alors pour les Chinois, c'est pas la montée de la Chine, c'est le retour à la normale. Et ça, veut pas, ce sera un ajustement avec lequel il va falloir que nous ayons à composer. Et qui ne sera pas un ajustement facile et nécessairement confortable.
Sinon, parlons de ce qui se passe aux États-Unis. Écoute, je regarde CNN, je surveille ça. Toutes les notifications sont allumées dans mon cellulaire. Il me semble qu'il n'a pas encore été arrêté, notre Trump national.
Non, mais il a réussi, par exemple. Il a réussi à liquer le Parti républicain derrière lui. Imaginez, là, même les républicains au Congrès, parce que ce qui se passait, là, ou ce qui se passe à l'État de New York, c'est de l'ordre du droit de l'État. Hein. On se souvient, aux États-Unis, il y a du droit d'État et il y a du droit fédéral. Et là, c'est une affaire parfaitement État de New York. Le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Mais quand même, les républicains au Congrès vont prendre leur pouvoir spécial d'enquête pour savoir s'il y aurait de l'argent fédéral qui aurait été utilisé là-dedans. Donc, c'est une manière. Bizarrement, il aura réussi, peut-être encore plus, à montrer que l'emprise de Donald Trump, qui n'est pas élu nulle part, est encore incroyablement grande sur le Parti républicain, qu'il soit arrêté ou pas. Alors, vous voyez que ici, la manœuvre de jouer l'intérêt des médias, de mobiliser les gens qui croient en lui et de faire passer pour des traîtres au parti ceux qui ne sont pas complètement enlignés pour Trump, mais à date, ça fonctionne. On verra pour la suite, mais c'est peut-être une des meilleures semaines de Donald Trump dans sa reconquête du Parti républicain.
C'est assez particulier quand on entend aussi toutes les discussions et tous les reculs du droit des femmes également aux États-Unis auxquels on assiste jour après jour, puis les tabous qui commencent à s'installer. Puis hier, on parlait de l'éducation sur le système de reproduction féminin. Puis là, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, de la pilule abortive qui... elle devient de plus en plus difficile à trouver dans certains États américains, Guillaume?
Elle est sous assaut de deux parties. On en avait parlé pour une, mais voici ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait arriver très, très tôt là, dans les jours qui viennent. D'abord, il faut savoir que la moitié des avortements aux États-Unis sont par la pilule abortive. Donc, c'est énorme comme quantité, là. Sinon, l'autre option, c'est plutôt des interventions de type médical en clinique. On sait que depuis le jugement Dobbs, celui qui met à mal ou en tout cas qui efface le jugement Roe v. Wade, l'accès à l'avortement est maintenant une question totalement politique qui relève des États. Et tous les États vont faire leur propre recette. Certains États seront encore plus conciliants, d'autres beaucoup moins. Et là, l'État très conservateur du Wyoming vient directement d'interdire la pilule abortive sur son territoire. Point barre. Et en même temps, là, vous allez me dire, mais peut-être que ça, c'est un État sur 50, là. Ben, pour tous les autres, au Texas, en Cour fédérale, sous une entourloupette d'évaluer que peut-être on n'aurait pas dû accepter ce médicament-là, il pourrait y avoir un jugement, parce que le juge qui a été nommé à l'époque par Donald Trump est très, très conservateur. Il n'est pas impossible qu'en faisant sauter l'approbation de l'équivalent de Santé Canada, la Cour fédérale du Texas décide que la pilule abortive n'est pas quelque chose de sécure pour l'ensemble du territoire américain. Alors, est-ce que à court terme, ça va créer, je dirais, des angoisses et des problèmes? Certainement. Quel va être l'impact politique de ça? Je suis pas prêt à dire, moi, que la population aux États-Unis, d'ailleurs, là, hommes-femmes, là, les sondages sont très clairs. La majorité des Américains souhaitent que l'avortement soit sécure, légal et rare. Voilà où est le consensus américain. Et à force de vouloir l'interdire et de créer essentiellement quelque chose qui est encore plus dommageable pour les familles et les femmes à faible revenu ou à peu de moyens, il n'est pas impossible que les femmes et les Américains en général se rebellent aux prochaines élections et décide que ça devienne une question qui favorise davantage les démocrates. Rien de ça n'est écrit, mais c'est pas du tout certain que ça va être une stratégie gagnante à terme pour les républicains.
Non, et malheureusement, on utilise encore les droits des femmes comme arme politique pour faire avancer les intérêts des uns et cadeaux pour les autres. C'est assez particulier et finalement un peu décourageant, pour être honnête. Guillaume, revenons à ce qui se passe en France, dans l'Hexagone. Eh bien, la réforme des retraites a été adoptée. Les motions de défiance pour faire tomber le gouvernement ont été écartées et défaites. Dans quelle posture se trouve aujourd'hui Emmanuel Macron?
Il doit être très, très heureux de ne pas être en élection dans les 6 prochains mois. On va dire ça comme ça, Yasmine. Parce qu'il a utilisé ce qu'on appellerait, là, dans le espèce d'histoire constitutionnelle française, l'option nucléaire. C'est une clause qui fait peu de sens dans mon analyse. La fameuse clause 49.3 qui permet de faire adopter une loi sans la mettre au vote. C'est quand même assez exceptionnel. Et en échange, ben, il y a un vote de confiance pour le gouvernement. Mais moi, je trouve que c'est une clause qui permet à tout le monde de se cacher en dessous du tapis. Parce que personne n'a eu à voter. Donc, ça permet de faire passer des lois impopulaires. Mais quelquefois, les choses impopulaires sont les choses qui doivent être faites. C'est quand même un peu particulier d'avoir un régime de retraite qui est plus généreux que tout ce qui existe ailleurs. Et en plus, disons-le, en France, les retraites ne sont pas capitalisées. Ils n'ont pas de caisse de dépôt qui fait fructifier les fonds déposés, eux, pour ça. Alors, eux, à chaque fois qu'il y a des dépenses de retraite, c'est comme nous, les dépenses de santé. Et s'il y a, par exemple, plus de gens qui vont à l'hôpital une année, on paye plus. Et s'il y a plus de retraités en France une année, on paye plus. Dans un cadre où la population vieillit, il n'y a rien de ça qui est une bonne nouvelle. Mais là, qui va porter l'odieux politique de cette réforme-là? Présentement, c'est pas clair avec le 49-3 qui va être l'incroyable coupable, sinon, bien sûr, que le président Macron. Mais Marine Le Pen et son parti, qui sont essentiellement des populistes nationalistes, eux se sont absolument positionnés contre cette réforme. Je vous dirais que je suis pas certain si cette réforme-là, dans le cadre où elle a été faite, elle va pas être du Red Bull politique pour le parti de Marine Le Pen.
C'est assez particulier pour Marine Le Pen de voir qu'elle a finalement le positionnement politique à droite à géométrie variable. C'est pas grave si les régimes de retraite ne sont pas capitalisés. Le plus important, c'est de miser sur un vote. Penses-tu qu'elle espérait réellement que le gouvernement tombe et qu'elle puisse partir en élection sur des législatives?
Je suis assez surpris qu'il soit pas tombé, mais à un moment donné, il y a le réflexe de base de la majorité des élus qui disent on coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Il y a probablement beaucoup d'élus, et c'est un peu ce qui m'enrage avec ce type de méthode, c'est de dire bon, mais on passe la loi, mais il y a plein d'autres raisons de voter pour la confiance du gouvernement, à commencer par s'assurer, nous, de rester confortablement au pouvoir. Là-dessus, l'approche britannique, elle est plus transparente pour l'électorat. Si le gouvernement échoue à faire passer une loi importante, par exemple aujourd'hui de budget, ben ça veut dire que le gouvernement n'est pas capable de gouverner puis devrait s'en aller chez eux. Puis on aura une élection. Les choses sont claires, elles sont transparentes. À force de gommer dans toutes sortes de méandres constitutionnels les choses, on finit par augmenter la colère. Plus on dilue la responsabilité des élus ou des différents partis à savoir qui a fait quoi, plus à la fin... Je dirais que l'apathie et le décrochage face aux institutions augmentent. Et c'est probablement ça qui va se passer. Et ceux qui gagnent là-dedans, c'est toujours les partis populistes plus nationalistes. Parce qu'on n'a plus, quand on dit que Marine Le Pen ou encore Donald Trump sont à droite, il faut savoir que leurs propositions économiques sont particulièrement ancrées à gauche. Alors, ce ne sont plus des partis typiques droite-gauche, ce sont des partis populistes, des solutions simples à des problèmes complexes, et nationalistes. C'est-à-dire tout dans l'intérêt de l'électorat national, au diable reste et certainement le long terme.
Et au diable la responsabilité. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.
Allez à l'Opéra! On prend la Bastille! On fait la révolution!